Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat de la journée mondiale de Rhodes a été célébrée aujourd'hui en Iran et dans de nombreux autres pays et du monde. Le dernier vendredi du mois béni de Ramadan marquait la journée mondiale de Rhodes. C'était une initiative prise par le fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis. Aujourd'hui, vendredi, à Téhéran et dans d'autres villes et provinces du pays, et la journée mondiale de Rhodes a été célébrée. Et il y a eu surtout cette prise de position du président iranien Ebrahim Raisi qui a affirmé que la journée internationale de Quds est une journée pour tous les opprimés, les croyants dans le monde. Il annonce, a précisé le président Raisi, la libération d'Al Quds. Dans le même temps, l'Iran a salué la tenue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays islamiques sur la question palestinienne. Il y a eu une conversation téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et le secrétaire de l'Organisation de la coopération islamique. C'était lors de cette conversation téléphonique que le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a salué la tenue d'une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique pour discuter de la question palestinienne. Il y a eu surtout cette déclaration du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, qui a dit que voilà les événements, les récents événements qui se sont produits en Palestine, là je cite en fait le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, les récents événements qui se sont produits en Palestine mettent en évidence la barbarie du régime sioniste et la puissance de la résistance. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris une analyste franco-syrienne, Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci de votre invitation et bonjour à votre invité. Bonjour à toute l'équipe aussi et tous les téléspectateurs.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Madame Midani, c'est un analyste français spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, monsieur Norostine. Bonjour à vos auditeurs et à madame Misani.
On va, si vous nous le permettez, monsieur Dortiguier, on va commencer notre émission avec madame Midani parce que la priorité est toujours accordée aux femmes, monsieur Dortiguier. Madame Midani, je viens de lancer tout à l'heure le sujet de la célébration de cette journée internationale de Quds en Iran et ailleurs dans le monde. Comment l'avez-vous évalué? Quelle est l'importance et la portée de la célébration, de la commémoration de la journée internationale de Quds, s'il vous plaît?
Ben écoutez, c'est une grande journée, effectivement, qui salue aussi bien la lutte du peuple palestinien que, en fait, qui affirme à nouveau à chaque fois que Al-Quds est une ville arabe qui appartient effectivement à tous les croyants du monde, musulmans et chrétiens. C'est aussi une affirmation du soutien de la lutte du peuple palestinien qui fait face de manière absolument héroïque et fantastique, je dirais, à une brutalité et une barbarie qui sont celles de l'armée israélienne, sans limite en fait, qui empêche les personnes d'ailleurs pendant tout ce mois de Ramadan, qui a empêché les gens de faire la prière à la mosquée Al-Aqsa, qui a empêché l'accès à l'église, à la cathédrale de la Nativité, qui en fait empêche la liberté du culte, empêche les gens de faire la prière, les agresse avec des balles à bout portant, les tabasse et même envahit la mosquée. Elle interdit aux blessés de sortir, elle interdit aux urgences, aux secours d'arriver pour secourir les blessés. C'est absolument quelque chose d'absolument innommable, ceci au vu et au su du monde entier, et qui ferme les yeux et les oreilles et qui ne veut rien voir de toutes ces horreurs, rien que parce que cet État fantoche d'occupation israélienne sioniste est soutenu par les forces de l'OTAN, il est soutenu par les États-Unis, d'ailleurs il a été créé par ces forces-là, et donc là il n'y a plus de valeur de droit humain, il n'y a plus de valeur de droit au culte, il n'y a plus de valeur qui font que au moins les gens qui sont sans armes et sans rien, etc., ne peuvent pas être tabassés, agressés par l'armée israélienne et par la police, et encore moins par les colons qui viennent souiller la mosquée à l'Aqsa. Donc tout ceci fait que effectivement la résistance non seulement s'organise mais elle s'amplifie. Et ça, c'est un droit le plus élémentaire, je dirais le plus évident du peuple palestinien, qu'il est important d'affirmer à l'échelle internationale et qu'il est important de soutenir pour toute personne qui a un sens de la paix, de l'humanité et des droits de l'homme.
Monsieur Dortillier, vous avez en fait entendu les explications de Madame Midani. Madame Midani qui estime que voilà, là, il s'agit d'un droit fondamental du peuple palestinien, des Palestiniens, qu'il faut en fait soutenir et qu'il faut protéger. Votre lecture, s'il vous plaît.
Eh bien, je dirais que ce combat du peuple palestinien, si on en juge d'après les chiffres, a déjà un siècle d'existence, c'est-à-dire un siècle de lutte, après la création du fameux foyer, pour le peuple juif, comme on disait, la déclaration Balfour. Et ce n'est pas pour rien, justement, que la première trace de la formation de l'État juif, le Jewish State, vous savez, a été finalement quelque chose qui ne sort pas des droits de l'homme, hein, qui sort de la patrie, du mouvement de Staline. C'est un diplomate stalinien qui était André Gromyko, qui a proposé en 1947 la formation de cet État. Cet État, qui a été ensuite donc proclamé un an plus tard, ne reconnaît d'être humain, ne reconnaît de réalité juridique qu'à ceux qui appartiennent à une race ou à une souche, prenez le mot comme vous voulez, déterminée. C'est-à-dire, c'est une négation quasiment schizophrénique, négation pathologique de la réalité d'un peuple, d'un très grand peuple, qui est le peuple arabe, et qui est formé en même temps de minorités avec des chrétiens, des musulmans. Et c'est pour cela que le président de la République islamique d'Iran, M. Raisi, a eu raison de dire que ces manifestations touchent tous les croyants, c'est-à-dire tous ceux qui ont un rapport de moralité avec le divin, et non pas un rapport, disons, égoïste. Il ne s'agit pas, disons, de faire servir des traditions religieuses à des manifestations d'égoïsme, manifestations de haine. Non. Malheureusement, chaque fois que nous pensons à cette journée de Quds, ou que nous vivons cette journée de Quds, nous constatons la même chose, c'est-à-dire toujours une auto-affirmation du peuple palestinien, une auto-affirmation du peuple arabe, en même temps qu'une indifférence complète, justement, du monde. Aujourd'hui, bien sûr, l'Occident, comme l'a dit Madame Bizani, l'OTAN, etc., ferme les yeux sur cette réalité. Les milieux de gauche, disons, comme en France, je donne cet exemple-là, ont toujours fermé également les yeux sur la cruauté de la répression israélienne, mis à part quelques exceptions dans la jeunesse en particulier. Et je dois dire que ce qui me frappe le plus, je terminerai là-dessus, c'est l'ignorance dans laquelle les jeunes générations sont tenues en Occident ici, y compris dans les milieux d'immigration, sur l'histoire palestinienne. Vous voyez, on en fait une histoire, on en fait une question de religion, question de fanatisme. On ne voit pas que c'est une question historique, une question de droit. Voyez-vous, comment dirais-je, les massacres ont toujours été, disons, le chemin, si j'ai pu dire, on dirait dans le christianisme, le chemin de croix, le chemin justement du peuple palestinien. Depuis Terracine, depuis Sabra et Shatila, et encore ce ne sont que des îlots de souffrance dans un océan, si je puis employer cette métaphore. J'ai connu une personne qui était professeure d'arabe ici, mademoiselle Amélie Marie Gouachon, qui a écrit sur Avicenne justement, et elle a écrit aussi sur le peuple palestinien, dans son livre que je recommande, qui s'appelle « La Jordanie réelle ». Bon, elle montre justement toutes ces vilainies, et en particulier ce que Israël n'a jamais voulu faire lorsqu'il s'est présenté aux Nations Unies, à savoir qu'il s'est engagé à rendre au peuple, disons, palestinien, les maisons, enfin, les propriétés qui avaient été confisquées. Bon, il s'y est engagé, il ne l'a jamais tenu. Donc, normalement, en droit humain, il ne devrait pas être membre des Nations Unies. Voilà ce que je peux dire. Évidemment, on pourrait encore prolonger. C'est une souffrance terrible, surtout pour tous ceux comme moi qui ont suivi la lutte du peuple palestinien depuis les années 50, de voir qu'il y a bien sûr un courage toujours intact, mais une indifférence de plus en plus forte et surtout une ignorance entretenue par la presse et l'université sur cette question.
Madame Midanit, bon, selon M. Dortiguet, il y a une indifférence, une ignorance vis-à-vis de la question du peuple palestinien, mais le courage du peuple palestinien, dans, si vous voulez, cette lutte reste intacte. Ça, c'est un point important d'après vous, Madame Midanit.
C'est un point très important. En fait, la lutte ne reste pas seulement intacte, elle s'amplifie. Et elle s'amplifie mondialement, c'est-à-dire qu'avec la multiplication des moyens de communication qui sont au-delà des moyens de communication officiels et mainstream, justement, les Palestiniens ont pu avoir accès aux moyens d'information. Je parle des réseaux sociaux, par exemple, où ils ont pu communiquer leurs problèmes, ils ont pu communiquer l'injustice qui leur est faite, ils ont pu communiquer aussi leur détermination à libérer leur pays, etc. Ce qui a fait que l'année dernière, surtout l'année dernière avec l'opération Saïf al-Quds, on a vu quand même qu'il y a une grande sympathie au niveau du monde entier qui se faisait autour des Palestiniens, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'en Angleterre. Et malgré la répression des États, c'est-à-dire la répression policière qu'ils subissent, quand on a ouvert les yeux, on ne peut pas les fermer parce qu'on est battu. On ne peut que, au contraire, ça ne peut qu'augmenter la révolte. Et je vois que aussi bien au niveau de la jeunesse palestinienne qu'au niveau des jeunesses dans le monde, jeunesse ou pas jeunesse d'ailleurs, toutes les personnes qui croient réellement aux droits humains et au rejet de l'apartheid, le rejet du racisme, du fascisme. Bon, ben, en fait, ils se regroupent autour des Palestiniens. Je voudrais dire quand même, hier on a vu qu'il y avait des manifestations importantes en Angleterre, à Londres, des manifestations aussi, des rassemblements importants se préparent à Paris de soutien aux Palestiniens pour demain. Là, aujourd'hui, en Allemagne, mais la police berlinienne La police allemande interdit la manifestation. Mais bon, donc on voit quand même que les États sont de connivence d'un côté. De l'autre côté, les peuples réagissent et commencent à vraiment découvrir la réalité de la question palestinienne qu'ils avaient essayé de mettre sur le compte de, comme les essayent toujours les sionistes de dire, c'est de l'antisémitisme, mais en fait, c'est une question de vol de territoire, de vol de propriété, ce sont des hordes terroristes nazies qui s'étaient abattues sur la Palestine, les hordes Irgun, Haganah et Stern, qui sont des hordes nazies. Dans les années avant, déjà depuis le début du siècle dernier, ont commencé à sévir en Palestine, qui ont commis de grands massacres, et poussant la population à l'exode, comme c'est absolument leur pratique systématiquement. Et actuellement, ils font la même chose en Ukraine pour pousser aussi les Ukrainiens russes à l'exode, comme ça a été le cas aussi en Syrie, où il y a eu de grands massacres justement pour pousser les Syriens à l'exode et puis s'approprier leurs terres et leur territoire. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie, où on enlève tous les éléments de vie de cette ville et de cette région, qui est la région la plus riche de la Syrie, et comme par hasard, dans laquelle il y a des puits de pétrole et de gaz. Donc en fait, c'est une pratique impérialiste depuis toujours, pour s'approprier les terres des autres et pour coloniser et envoyer des gens de l'extérieur qui viennent coloniser ces terres, ce qui est le cas de tous les colons israéliens aussi, qui sont des étrangers au pays, qui viennent se prétendre que ce sont leurs terres. Donc on arrête les gens, on les massacre, on s'approprie leurs maisons, on les pousse dehors, on détériore, on détruit les maisons. Il y a des villages en Palestine, des villages dans le sud palestiniens qui ont été dans le rôle, en fait, qui ont été démolis 100 fois.
Mmh.
Et
les
gens qui reconstruisent leur maison et qui reconstruisent le village depuis 100 fois. Mmh. Il faut saluer la détermination du peuple palestinien à continuer à rester sur ses terres et à continuer à construire. Et puis, je crois qu'on peut lui devoir tout le soutien et tout le respect à cette détermination et pour cette lutte juste qu'il faut effectivement soutenir mondialement.
Monsieur Tortillier, en fait, ces récents événements à Al-Quds, dans la mosquée d'Al-Aqsa, et également ces manifestations qui ont eu lieu, ces marches qui ont eu lieu en Iran et ailleurs dans le monde, d'où est-il tort à ceux parmi en fait des régimes dans la région qui ont normalisé des relations avec le régime israélien ou bien qui envisagent, si vous voulez, de le faire?
Bien sûr, c'est une véritable, permettez-moi l'expression, une véritable claque qui leur est infligée. Cela démontre que ceux qui ont de tels désirs, que ce soit d'Afrique du Nord ou en Orient proprement dit, véritablement vont à l'encontre, je ne dis pas de la morale, mais vont à l'encontre, disons, de la réalité. C'est-à-dire que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'agit là d'un déni complet de la situation. Vouloir imaginer qu'il puisse y avoir des relations constantes, normales, avec un régime de massacreurs, c'est véritablement même se pousser sa propre population à un suicide. Et je crois que là, il s'agit, comme on dit, vous savez, la fameuse formule latine, que Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Et je crois que là, nous avons la démonstration. Et malheureusement, cette lâcheté de certains milieux arabes, il faut bien le dire, est comparable un peu à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale avec la fameuse révolte arabe, voyez-vous. C'est-à-dire que les gens voient miroiter des avantages matériels, des questions de pouvoir, vous voyez, de dynastie. Et finalement, ceci va à l'encontre de la réalité. Vous voyez. Et malheureusement, parler de leçons de l'histoire est toujours très difficile. Parce que nous, les rapports sociaux, les rapports commerciaux, les rapports internationaux jouent sur les illusions de la richesse, voyez-vous. Et je crois qu'une grave crise économique mondiale, par exemple, pourrait justement précipiter davantage la conscience de plusieurs peuples d'Orient du mauvais chemin qui est suivi après ces accords dits accords d'Abraham.
Alors, vous voulez dire que cette prise de conscience aussi est d'une importance, si vous voulez, primordiale?
Oui, elle est primordiale. C'est une somme, elle est primordiale. Disons qu'elle correspond à ce que nous, enfin, en philosophie, je dis ça parce que j'ai un Platon à côté de moi, nous appelons le courage. C'est-à-dire, le courage, c'est quelque chose qui est une sorte de teinture sur l'âme, voyez-vous, qui rend l'âme indifférente, disons, aux souffrances. Non pas insensible, mais indifférente aux souffrances et permet de la surmonter dans la continuité. Ça, c'est le bel exemple, un exemple, peut-on dire, surhumain, que donne celui de la lutte longue palestinienne, dont j'ai dit qu'elle a maintenant, il faut dire, plus de 100 ans.
Monsieur Pierre Dorsiguier, spécialiste français des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Madame Aïssa Remidani, analyste franco-syrien, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.